48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 97e mag de 48 FM, un mag spécial ruralité et hyper-ruralité avec aujourd'hui dans nos studios Alain Bertrand, le sénateur maire de Mende. Alain Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Et Frédéric Dumortier, directeur de la Maison de l'Emploi, bonjour.
Bonjour.
Alors un mag spécial ruralité car il y a tout juste un mois, Manuel Valls, Premier ministre, après le comité interministériel aux ruralités, a annoncé 46 mesures pour la ruralité qui vont changer certaines choses sur notre territoire, et certaines de ces mesures découlent du rapport sur l'hyper-ruralité que vous avez remis, Alain Bertrand, en juillet 2014 à Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires, dans le cadre de la mission qui vous a été confiée par Manuel Valls, Premier ministre. Alors c'est un rapport que nous allons détailler ici, qui pose la situation, les faiblesses et les atouts des territoires hyper-ruraux pour proposer au final un pacte national en 6 mesures et 4 recommandations afin de restaurer l'égalité républicaine. Nous allons essayer d'expliquer dans cette émission les problèmes, les enjeux, les solutions. Alors Frédéric Dumortier, merci d'avoir répondu à cette invitation. Votre venue est intéressante car on va voir que les mesures proposées par le Premier ministre vous impactent directement. On va pouvoir concrètement voir quelles applications ces préconisations peuvent avoir sur une maison de l'emploi et par là même sur les habitants des territoires ruraux. Alors Alain Bertrand, vous avez établi un rapport relatif au développement et à la mise en capacité des territoires hyper-ruraux. Alors vous tenez à ce terme d'hyper-ruralité. Vous commencez d'ailleurs votre rapport en expliquant que la notion de ruralité ne fait plus sens, c'est ça ?
Oui, oui, parfaitement.
Voilà, parce qu'une la ruralité, en fait, en gros, c'est 80% du territoire français, donc on peut pas tout mettre ensemble et préconiser les mêmes actions pour les différents.
Il y a plusieurs sortes de ruralité.
Voilà. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer justement vous quels différents types de campagnes vous en France existent d'après vous ?
Alors, c'est assez simple.
On va rapprocher le micro.
Bon, la ruralité, c'est 99% du territoire si on exclut le territoire des villes, l'assiette foncière des villes. Il y a d'abord, ça se divise en 4 parties de 25% en gros chacune. Il y a les campagnes proches des villes, des vallées et du littoral, qui rassemblent en gros 25% de la population sur 25% du territoire. Ces campagnes connaissent une influence forte des villes, et donc elles se densifient, elles ont une croissance élevée, une richesse élevée avec des jeunes. Ensuite, il y a les campagnes agricoles et industrielles. Ça, c'est tous les bassins du Nord, notamment, qui représentent aussi 25%, un autre quart du territoire, peu dense, avec une dynamique démographique liée à celle des villes, parce qu'il y a quand même un maillage de villes assez important. Et par contre, il y a un tissu industriel qui disparaît, il y a des forts taux de chômage. C'est une ruralité qui est en souffrance aussi, la ruralité, l'ancienne ruralité industrielle. Et ensuite, il y a 50% du territoire, deux autres quarts, qui sont les campagnes de très faible densité. Et dans ces deux autres quarts, il y a un quart qui est caractérisé par l'éloignement des services, par l'absence de métropole, l'absence d'agglomération et l'absence des grandes villes. C'est ce que j'appelle l'hyper-ruralité. Elle ne constitue donc que 25% de la ruralité globale. Elle se caractérise par l'éloignement des gens entre eux, l'éloignement des métropoles, je l'ai dit. C'est la ruralité, l'éloignement. Et la Lozère en fait partie. C'est pour ça que j'ai traité préférentiellement de l'hyper-ruralité, en sachant que je ne traitais que d'un quart de la ruralité. C'est pour ça aussi que le rapport de Manuel Valls, qui cite souvent l'hyper-ruralité à l'Assemblée ou au Sénat, traite bien des ruralités et non de l'hyper-ruralité, parce qu'en tant que Premier ministre, il ne peut pas traiter d'un quart du problème.
Voilà, c'est ce que je vais vous dire, c'est là que le bas blesse un peu, parce que sur les mesures annoncées, on traite nulle part de l'hyper-ruralité en tant que telle, alors qu'on sait qu'on peut pas travailler pareil sur la campagne au nord de Montpellier, à 30 km de Montpellier, que sur la Lozère.
Oui, complètement. Bon, il s'agit de mesures générales pour certaines, d'autres plus précises, en matière de santé, en matière de services publics, en matière d'emploi, en matière de guichet unique, en matière d'investissement. Mais, pour autant, ça dénote le fait que le Premier ministre du gouvernement de François Hollande entend traiter de la ruralité. Bien, moi je ne demande pas qu'on ne traite que de l'hyper-ruralité, ce serait être méprisant pour les autres ruralités. Mais le signal qui est donné à travers ces 50 mesures, qui concernent l'égalité et finalement des territoires et puis l'égalité républicaine, c'est il y a un problème sur la ruralité dans notre pays. Je vais essayer d'apporter des solutions, c'est ce qu'aujourd'hui Manuel Valls nous dit. C'est donc une démarche que j'approuve, même si on verra, il faut aller plus loin certainement dans bien des cas.
Oui, toujours d'après votre rapport, vous expliquez qu'on assiste dans ces territoires hyper-ruraux à un déclin démographique et économique global et continu depuis des décennies qui n'a pas finalement attiré l'attention particulière auprès de nos élites à Paris. On pourrait se demander finalement pourquoi ça changerait. Quoi, du jour au lendemain, on aiderait ces territoires qui sont délaissés depuis des années.
Parce que, tout simplement, il faut toujours parier sur l'intelligence de nos gouvernants, de nos parlementaires, de nos citoyens. Et donc, c'est vraiment parce que quelque chose est mauvais que c'est intangible et que ça ne veut pas devenir bon demain. C'est ça le sens de toute action citoyenne, que ce soit associative, que ce soit syndicale, mutualiste, politique. Et voilà, donc il faut croire en l'avenir.
Voilà. Après, je me fais l'avocat du diable. On verra qu'il y a un frémissement quand même dans nos territoires et bien heureusement. Un point qui nous est défavorable et que vous pointez du doigt dans ce rapport, vous expliquez que les chiffres et leur interprétation peuvent masquer la réalité. Alors je m'explique, par exemple, un faible taux de chômage ne pousse pas nécessairement à l'intervention publique, alors qu'au final, ce faible taux peut s'expliquer par l'exode des populations. Pareil pour la santé. Alors nous ne sommes pas considérés comme un désert médical car l'indicateur principal est le nombre de médecins rapportés à la population, alors qu'au final, il faudrait s'intéresser à l'accès aux soins. Je peux continuer longtemps comme ça. Pareil pour l'habitat, notamment avec la vétusté des logements qui n'est pas prise en compte. Donc vous préconisez pour ce pacte national de bouleverser le choix et l'usage des indicateurs.
Oui, parce que on voit que tout est fait à la politique des chiffres et des grands chiffres. Est-ce qu'un agent du service public à Lozère est utile? Est-ce qu'on doit le maintenir? Eh bien, pour trancher, nos gouvernants ne trouvent pas mieux que de regarder le nombre de dossiers qu'il a traités. Alors même que ce n'est pas que cet indicateur, il y a l'indicateur de service rendu à la population, de présence sur le territoire. C'est pareil pour une infrastructure. Pourquoi ferait-on une route dans l'hyper-ruralité alors que les comptages révèlent qu'il passe 5000 véhicules par jour et qu'il y a 200 demandes en France sur des routes pour les mettre à deux fois de voie, où ils passent 30, 40 ou 50 000 véhicules. Donc cette politique de la norme du grand chiffre aboutit à terme à des aberrations et surtout à l'absence de tout aménagement du territoire. Prenons le point le plus crucial, l'emploi. Nos gouvernants disent, aïe, l'emploi a du mal, on le sait, c'est la thématique de François Hollande, le président de la République, à avoir des résultats. Bien. Plus de 3 millions de chômeurs. Et donc, pour résoudre le problème, par où on va commencer? Ben, par les grandes villes, parce que là, on va avoir un effet de masse et peut-être gagner énormément en emplois retrouvés, en création d'emplois. Faux! Dans l'hyper-ruralité, eh bien, si 100 fois on crée un emploi, ça fait 100 chômeurs de moins, exactement pareil. Donc, cette dictature des chiffres, du chiffre d'affaires, du grand nombre, du nombre de passages, il faut qu'elle cesse. Parce que c'est contraire à l'équité républicaine, c'est contraire à ma devise, pas de sous-territoire, pas de sous-citoyens.
À la Maison de l'Emploi, comment on fait pour favoriser l'emploi, justement, quand on voit les difficultés des territoires hyper-ruraux ?
D'autant qu'effectivement, la problématique de l'emploi, elle est cruciale sur nos territoires, même si les chiffres sont rassurants par rapport à d'autres territoires, il n'en empêche qu'on a des populations qui sont en grande précarité, pour lesquelles retrouver un emploi est pas plus simple, voire des fois bien plus compliqué, du fait des difficultés de mobilité, par exemple, aussi d'un tissu économique plus éclaté, et donc du coup une recherche d'emploi plus complexe. On voit notamment sur nos territoires depuis depuis quelques mois grossir le chiffre des demandeurs d'emploi de longue durée, et ce qui n'est pas du tout encourageant et qui nous demande de réagir effectivement de manière forte, notamment sur cette population qui pourrait partir dans une grande précarité et sur lequel il faut travailler, interagir. Et effectivement, la question du nombre des grands chiffres ne veut rien dire face à cette population. Il faut travailler, il faut créer aussi de l'emploi en Lozère. Il faut soutenir les entreprises parce que un taux de chômage faible, c'est aussi pour des entreprises des fois des difficultés de recrutement. Et donc il faut travailler l'attractivité de l'emploi, non seulement pour les demandeurs d'emploi en Lozère, mais aussi pour rendre nos entreprises dynamiques et rendre notre territoire attractif en termes d'emploi. Et donc il y a aussi un enjeu d'accueillir de nouvelles compétences au-delà de... Et donc effectivement, un emploi créé en Lozère va bénéficier... Bien sûr, un demandeur d'emploi lozérien, mais aussi, pourquoi pas, un demandeur d'emploi du territoire français qui sera le bienvenu en Lozère et pour lequel on fera tous les efforts nécessaires pour l'accueillir et lui permettre de s'installer.
Les projets sont pas bénéficient même rarement d'un accompagnement à la hauteur de leur intérêt, c'est ce que vous dites dans ce rapport, Alain Bertrand. Vous donnez l'exemple, par exemple, dans la Creuse, d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de gyroscopes haute technologie qui équipe les sondes spatiales américaines. Et la difficulté dans ces territoires hyper ruraux, c'est de porter des projets et d'être accompagné. Finalement, on a plus de difficultés que dans les métropoles.
Oui, et puis il y a moins de d'organismes économiques, d'entreprises de grande taille ou de collectivités de grande taille. Ça veut dire qu'au moment où il faudra faire des études, ils n'auront pas la capacité pour porter ces études, pour porter ces diagnostics, pour porter ces expertises. Une commune de 200 habitants, supposons, qui a un site touristique magnifique, pour le mettre en œuvre, on va lui dire « Vous voulez des crédits européens, des crédits d'État, des crédits régionaux, des crédits départementaux ?» Il faut faire une étude. Cette étude qui va recourir à des experts, d'ailleurs, qui sont hors de cette zone hyper-rurale, voire hors de la zone régionale, va coûter 20, 30, 40, 50 000 euros. Ça va être impossible. C'est pareil en matière économique. C'est des petits modèles de petite taille qui peuvent se développer. On a des cas de réussite, y compris à Lozère, y compris à Mende, y compris à La Cano, à Florac, à Seychelles, à Marvejols, partout. Mais au départ... On a besoin d'une aide différente, ce que moi j'appelle un guichet unique, pour aider ces porteurs de projets avec un chef de file, parce que moi le chef de file ne peut être que l'État, c'est le seul qui est impartial, et on doit pouvoir recourir gratuitement à de l'ingénierie nationale qui existe, qu'on n'a pas à payer supplémentairement, de telle manière que nos projets soient un peu plus aidés, un peu plus portés qu'ailleurs. Tout ça est très facile, il suffit de le mettre en œuvre. Nous avons les compétences dans ce pays, je dis bien, à moyen costal.
Je rebondis, on a besoin effectivement de monter en compétence sur nos territoires. On a besoin de cette compétence. Effectivement, dans les territoires ultra-urbains, il y a presque trop de compétences. Et d'ailleurs, ils se bagarrent pour pouvoir se mettre en œuvre cette compétence. Chez nous, c'est plutôt le contraire. Et effectivement, alors... Moi, j'ai pas de prérequis sur qui doit le faire, mais peu importe, il faut qu'on permette à la compétence de rester, voire de s'installer, pour qu'il y ait cet accompagnement. Effectivement, l'image des collectivités territoriales en Lozère sont aujourd'hui n'ont pas une dimension nécessaire pour pouvoir avoir un service économique digne de ce nom, pour faire un accompagnement des entreprises. Et donc il faut avoir une dimension plus collective, plus peut-être départementale, en tout cas avec des effets de levier qui seront plus que bénéfiques, et d'ailleurs qui seront certainement plus efficaces qu'en zone urbaine, parce que mieux organisé, parce que mieux structuré, parce que justement, nous, on n'a pas les moyens de ce millefeuille qu'ils ont sur les territoires, et donc du coup, d'une déperdition de compétences. On le voit dans nos territoires, quand il y a une compétence, elle est utilisée de manière judicieuse, elle est au bon endroit, elle fait de vrais leviers, si tant est qu'elle y soit, et qu'on la maintienne, et qu'on lui permette d'exister. Effectivement, et on le voit sur nos territoires, on a une innovation qui est peut-être plus importante qu'ailleurs, on est obligé d'inventer. On est obligé peut-être de bricoler, c'est un peu péjoratif ce terme-là, mais du bricolage sortent des choses vraiment très très intéressantes, très innovantes. Il faut que ça puisse faire modèle, il faut que ça enclenche des effets, des modèles économiques. Et pour ça, effectivement, il faut qu'on soit accompagné. Il faut, ça demande des moyens quand même.
Oui, et souvent l'appel à l'ingénierie privée, le problème, c'est les coûts. Donc d'où votre demande que l'État intervienne?
Oui, moi j'appelle ça la création d'un pôle national d'expertise à partir des cadres, des scientifiques, des ingénieurs, des différents conseils généraux des administrations nationales. Je les ai fréquentés, y compris pour rédiger ce rapport. Il y a une matière grise énorme qui est à notre portée, et ensuite un guichet unique pour mettre les aides, que le préfet dise qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir de l'Europe, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir de l'État, de la région, du département, qui est un chef d'orchestre. Et j'observe qu'effectivement, moi aussi, on a plus... On souffre plus qu'ailleurs. Tout est plus difficile qu'ailleurs. On s'en rend bien compte. La République n'est plus aussi solidaire qu'avant. L'aménagement du territoire n'est pas pensé comme il y a 40 ans. Et donc, il y a davantage d'énergie sur notre territoire, davantage d'idées nouvelles, davantage de formes d'associations. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle aussi le droit dans les 6 mesures à la pérennisation pour les expérimentations efficientes, avec la capacité, le droit de tangenter les aspects légaux. Alors, ça veut dire s'adapter à notre micro-territoire. Donc il y a bien du grain à moudre, y compris pour la Lozère, c'est vrai.
Alors justement, sur ces expérimentations efficientes, on voit une mesure de Manuel Valls, la mesure 3, adapter l'organisation des soins aux besoins spécifiques des territoires ruraux. C'est par rapport à la CCSS de la Lozère que je mets en avant ce point. On sait les difficultés qu'a eu la CCSS, le combat que vous avez mené pour la pérenniser, alors que c'est pour nous, ça nous paraissait d'une logique, ça marchait bien, il n'y avait aucun souci, et ça a été remis en cause au niveau de l'État. Donc il faut vraiment adapter l'organisation, par exemple pour les soins, aux besoins spécifiques, et ça doit se retrouver sur tous les niveaux, pas que sur la santé.
Oui, mais bon, c'est très compliqué. Alors, il y a des raisons multiples et variées. Bon, on est loin du pouvoir, on représente peu de citoyens. Les parlementaires, malheureusement, votent en fonction des consignes de leur parti politique, alors que les ruraux devraient se retrouver transversalement. Les hyper-ruraux, si ce n'est pas le cas. Par exemple, pour ce dossier, qui relève d'une expérimentation, qui a débuté en 2007 ou 2008, dont j'ai obtenu la pérennisation par la loi fin 2013, eh bien, en 2014, ça a été un véritable parcours du combattant avec Jean-Claude Poisier, le président de la Caisse commune de sécurité sociale, pour arriver à faire admettre au ministère, aux URSSAF, au président des URSSAF, Jean-Claude de Tesson, que je remercie au passage, qu'il fallait déroger parce que notre modèle marchait bien, créait de l'emploi, rendait des services à l'extérieur, permettait de mutualiser des tâches, ce que j'appelle le travail déporté, était exemplaire pour l'hyper-ruralité. Mais c'est un parcours du combattant incroyable. Donc, je crois que il faut céder sur rien en matière de santé, on le voit. Cette loi des grands nombres, là, dont on parlait tout à l'heure, c'est celle qui fait qu'à Lozère, il nous faudrait avoir 4 portables pour que ça passe partout. Mais ils n'en ont pas conscience. C'est celle qui fait que si on répartit les scanners à la moyenne de scanners dans la population française, c'est 1 pour 200 000 habitants, donc nous, Amman, on n'en aurait pas. Et ainsi de suite. Donc, moi, j'en appelle à la sagesse des gouvernants, du Premier ministre, qui a déjà fait des choses sur la prime d'aménagement du territoire. Vous avez vu, la Lozère, on l'a depuis le 1er septembre 2014. La dotation d'équipement des territoires ruraux de 6 millions à 10 millions en Lozère, Manuel Valls l'a augmenté de 40%. Mais moi, maintenant, ce que je demande, c'est une loi d'avenir sur les ruralités. De telle manière qu'on traite très bien les 4 ruralités. Et de telle manière qu'on puisse bien dire aux citoyens: continuez à vous battre, vous avez des perspectives, et on va les écrire ensemble, ces perspectives, pour l'avenir, dans tous les domaines, la vie associative, la vie de l'entreprise, le service public, les bourgs-centres, les moyens de communication, les moyens modernes, la création d'entreprises. Voilà, ce que je demande aujourd'hui, c'est une loi d'avenir en matière de ruralité qui traitera de l'hyper-ruralité, qui, je le redis, n'est qu'une des 4 ruralités françaises.
Une droit à l'innovation. Ce droit à l'innovation, il est indispensable sur nos territoires. L'exemple de la CCSS, c'est vrai pour plein d'autres administrations qu'on a aujourd'hui sur Mende et en Lozère. Ils ont des dérogatives nationales, avec des modèles qui se déclinent au niveau national. Et quand on leur explique le bon sens du développement de nos projets, à l'échelon local, ils en sont convaincus, si ce n'est qu'eux-mêmes doivent se bagarrer, effectivement, avec leur échelon national pour que ça rentre dans les bonnes cases. Et à un moment donné, c'est ça, c'est laissez-nous faire du bon sens, laissez-nous le développer et faites-nous confiance sur les modèles qu'on invente et quitte à ce que vous puissiez les reprendre sur d'autres territoires, parce qu'au final, ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien.
D'où le problème de représentativité aussi que vous pointez du doigt et qui n'a pas été dans les mesures Valls qui a pas été annoncé où rien n'a été changé avec les territoires hyper-ruraux qui au final sont très peu représentés en nombre. On est encore sur les problèmes du nombre. Une fois.
Mais bon, moi, mon petit doigt me dit que dans l'avenir, le Parlement, qu'il s'agisse du Sénat ou de l'Assemblée, sera moins pléthorique. Ça peut constituer un avantage pour la ruralité. Je pense que la loi NOTRe va obliger aussi toutes les communes à être représentées dans les intercommunalités. Moi, vous savez, je suis à contre-courant de tous les ruraux, puisque j'ai demandé dans mon rapport que le seuil minimum pour créer une intercommunalité soit de 20 000 habitants, parce que moi je sais qu'ici on aime plus le territoire que nos territoires respectifs qu'ailleurs, qui sont plus faibles et que chacun veut rester chez lui. Mais c'est le meilleur moyen de ne pas pouvoir venir à nos fins. Et donc, je pense qu'il y a des mesures qui vont permettre des développements de la ruralité, de l'hyper-ruralité. Par contre, je crois qu'il ne nous faut pas hésiter, nous, à trouver des mots pour faire mouche, parce qu'à Paris, effectivement, un Premier ministre, un ministre, quand il reçoit quelqu'un, combien de voix il pèse, combien de citoyens il pèse, et nous, on ne saura jamais dans ce qu'il pèse. Par contre, si on s'assoit, qu'on lui dit, nous, monsieur, à Lozère, à Mende, si nous avons un AVC ou une maladie grave, nous allons mourir beaucoup plus qu'ailleurs, souffrir beaucoup plus qu'ailleurs, ça, ils peuvent le comprendre. Et nous avons beaucoup moins qu'ailleurs, la possibilité de créer des emplois, de développer tout ça. Ça, ils le comprennent. Et leur dire, on a un problème, il y a 3 millions de chômeurs, mais nous, l'hyper-ruralité, parce que c'est multiplié. Si on crée 500 emplois en Lozère, il y a 100 hyper-ruralités en France différentes. Ça fait des centaines de milliers et des millions. C'est à nous de taper du poing sur la table.
L'intercommunalité a été rabaissée à 2900 en Lozère, le taux le plus faible de France.
C'est même pas une intercommunalité, c'est une vaste fumisterie. Le département qui est le plus près de nous, c'est plus de 10 000 habitants par commune. Tant et si bien, qu'est-ce que ça veut dire pour vos auditeurs? Ça veut dire qu'il n'y a pas le moyen de faire des études, il n'y a pas le moyen d'aider à la création d'entreprises, il n'y a pas le moyen d'investir, il n'y a pas le moyen de porter un service en matière culturelle, en matière sociale, en matière sportive, en matière économique aux habitants. Ça veut dire que ça n'existe que pour avoir un président et 6 vice-présidents. C'est parfaitement honteux de ne pas avoir fait. Moi, je suis, vous savez, sur la position de l'évêque, 5 paroisses, 5 intercommunalités en Lozère. Voilà.
On va revenir sur l'ingénierie, on en parlait tout à l'heure, c'est un point important de votre rapport. Alors il y a plusieurs mesures justement qui découlent de votre rapport, je vais en citer quelques-unes. La mesure 36, donc élaborer une directive nationale d'orientation à l'ingénierie d'État, donc les mesures Valls, La mesure 37, aider, c'est-à-dire appui au développement interministériel, au développement et à l'expertise en espace rural, un dispositif d'appui au projet des élus, donc ça c'est ce que vous proposiez Alain Bertrand. Une mesure également qui abonde dans ce sens, la mesure 38 qui consiste à lancer un deuxième appel à projet sur les pôles territoriaux de coopération économique. Frédéric Dumortier, pour vous il s'agit de la coordination d'ingénierie.
Oui, les pôles territoriaux de coopération économique, ça a été lancé il y a 2 ans maintenant, je crois. Il y a eu un premier appel à projet sur lequel la Lozère n'a pas pu être retenue. C'était le comité de bassin d'emploi qui s'était proposé d'être chef de file sur ce premier projet. Il faut absolument qu'on rate pas le deuxième wagon, parce qu'effectivement, sur ces pôles territoriaux de coopération économique, on est sur le champ de l'économie sociale et solidaire, qui est un des secteurs économiques phares de notre territoire, où on est là aussi sur de l'innovation, des choses nouvelles et très dynamiques qui se passent, et il faut qu'on puisse être moteur et qu'on puisse là aussi s'armer effectivement d'ingénierie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le problème de l'ingénierie c'est le back office, alors ça se voit pas, ça va être encore des études, ça va être encore... Sauf qu'à un moment donné, il faut avoir l'énergie, les moyens de pouvoir mettre les bonnes personnes autour de la table pour aller dans le même sens, travailler dans une même dynamique. Et ça se fait pas tout seul. Il faut avoir des gens qui ont les moyens de pouvoir mettre ces gens autour de la table, de leur dire « voilà la direction qui est à prendre » et de la prendre ensemble et de se donner les moyens de la prendre ensemble. Et derrière, l'ingénierie effectivement financière, qui va derrière. On parlait tout à l'heure des fonds européens. Je sais pas si à la radio, non, je le sais, on n'a pas encore passé le pas de en tant que radio associative d'aller sur les fonds européens, mais ça y est, c'est fait. Donc
le studio a été financé en partie par le FEADER.
Et donc j'imagine que votre trésorier doit se régaler à faire ces dossiers européens qui sont effectivement très complexes. Il faut pas les critiquer. Leur fonctionnement font que c'est complexe. Et on ne doit pas refuser cette complexité. Par contre, on doit être armé pour pouvoir y répondre, pour pouvoir aller au-devant de ces dossiers-là et les monter et aller chercher l'argent là où il est. Mais effectivement, ça demande à un moment donné des moyens d'ingénierie et pas toujours se fermer de ces moyens-là tout en prétextant que ce sont des études. Les études pour les études, ça n'a plus de sens, on a dépassé ça, mais quand on parle d'ingénierie, c'est cette capacité de coordonner des acteurs, de les mettre autour de la table et d'avancer ensemble.
Vous parlez des fonds européens, on va parler donc de fonds européens, de subventions de l'État. Vous êtes assez sévère dans votre rapport, Alain Bertrand, sur les dispositifs qui existent pour les territoires ruraux, donc les ZRR sont en cours de réexamen, on n'en parle pas. La dotation spécifique de solidarité rurale ne prend pas en compte les spécificités de l'hyper-ruralité. D'après vous, vous expliquez que la dotation d'équipement des territoires ruraux perd son effet levier pour le développement local, servant trop souvent à d'ordinaires aménagements d'espaces publics. Le FNADT est insuffisant. Vous êtes assez sévère quand même dans votre rapport.
Non. De la même manière, j'ai dit à de nombreuses reprises au Sénat, vous savez, il y avait une querelle, faut-il supprimer le département ou pas ? Et tout le monde a monté au créneau pour dire « Eh non, il ne faut pas les supprimer parce que c'est indispensable pour la ruralité et a fortiori pour l'hyper-ruralité. » Et moi, j'ai dit chaque fois qu'ils voulaient m'entendre, les départements dans l'hyper-ruralité sont indispensables, mais jusqu'à maintenant, ils ont prouvé leur capacité à échouer. C'est tout ce qu'ils ont prouvé. Voilà. C'est pareil pour toutes ces lignes. S'ils avaient sauvé l'hyper-ruralité, on le serait. Donc, en Lozère, je souhaite bien entendu que nous profitions de ce changement et de la présidence de Sophie Pantel pour mettre en place des politiques radicalement nouvelles. Sur les crédits, cet entassement de crédits, jusqu'à maintenant, il n'a pas servi à grand-chose. On le voit, par exemple, avec la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui est la plus simple à capter pour une collectivité. Elle ne concerne pas les entreprises, mais elle peut concerner des dossiers qui permettent à une entreprise de s'installer. Eh bien, dans les 3 dernières années, on n'a jamais consommé à 100% la dotation d'équipement des territoires ruraux qui était attribuée à la Lozère. Et puis, il y a une espèce de maquis généralisé de ces fonds, on fait pas la manche. Moi, mon rapport, il dit ça aussi. On est l'Interland, d'après les grands chercheurs comme Davezi, Mohamed Hilal, indispensable aux métropoles, aux agglomérations, pour leur permettre de réussir. Et une partie du chiffre d'affaires qui est déclaré à Montpellier, à Toulouse, à Lyon et à Clermont-Ferrand est créé à Lozère. Et donc, nous voudrions... avoir des chances normales de réussir. Mais bon, ça passe aussi par les services de santé, ça passe par un téléphone portable qui passe, ça passe par la possibilité d'avoir des back-office qui fonctionnent sur des modèles différents, ça passe par des possibilités de contrats conclus avec les métropoles ou avec les régions qui soit obligatoirement dédié au développement économique. Il y a le développement touristique qui en est un sous-volet pour la Lozère, qui nous intéresse particulièrement, avec les territoires hyper-ruraux. Ça s'appelle même pas de la solidarité. Ça s'appelle se servir des chances de tout notre territoire français pour être une grande puissance économique, ce que nous sommes, la cinquième du monde, et pour retrouver de la croissance, de l'emploi et du développement. Donc c'est pour ça que je suis critique. Je suis critique à juste titre. Qu'on ne me dise pas qu'on a réussi dans l'hyper-ruralité dans les 30 dernières années. Ce que je dis n'en est pas politique. Nous sommes en situation d'échec, d'échec caractérisé. Et bon, nous le voyons sur la démographie. C'est quelques fractions, mais c'est une démographie résidentielle. Très bien, hein, j'en accepte l'augure. Mais on n'est pas réellement, au jour d'aujourd'hui, malgré les efforts du gouvernement Valls, en position de rebond, comme je souhaiterais que nous le soyons.
Frédéric Dumontier, vous acquiesciez ?
Bah, oui, en même temps, j'ai envie de dire que ça balbutie, j'ai envie d'y croire.
Oui, bon,
j'ai envie de croire que... et c'est très intéressant, ces allers-retours entre les zones ultra-urbaines, les agglomérations d'aujourd'hui, et nos territoires. Effectivement, il faut arrêter de se bagarrer entre territoires. Celui qui sera le plus aidé, celui qui sera le plus à même de pouvoir accueillir de l'emploi, il faut qu'on joue nos complémentarités. Et ça, je pense que dans la prise en compte de nos territoires ruraux et hyper-ruraux, c'est peut-être ça qui change et qui va changer. C'est qu'effectivement, on n'est pas là pour faire simplement le territoire vert pour qu'il puisse venir pendant les vacances se mettre au vert, nos urbains. On est là pour faire de l'échange de territoires. Et on le voit sur de la formation, sur de l'emploi. On a à créer des échanges, on a de la complémentarité. Et c'est peut-être sur ce nouveau visage de l'hyper-ruralité qu'on arrivera à changer les choses et effectivement à faire qu'on ne fait pas la manche, on a notre dynamisme et on doit le défendre.
Ça, c'est très important, on ne fait pas la manche.
Voilà, il y a la recommandation...
Monsieur Dumontier a raison à 100%.
La recommandation numéro 2 de votre PAC national, moderniser la péréquation et stimuler de nouvelles alliances contractuelles, dont on vient de parler, plus de péréquation. Nouvelle contractualisation, par exemple, métropole, territoires ruraux, en appelant les métropoles à contractualiser avec les territoires hyper-ruraux sur plein de dossiers, sur les classes vertes, par exemple, etc.
Oui, mais pas que simplement sur les classes
oui,
vertes.
Oui, c'est un exemple.
Pourquoi pas contractualiser sur le développement de filières d'excellence en matière d'entreprise? Par exemple, nous, la filière bois. Pourquoi ne pas contractualiser avec nos grandes métropoles, dans la grande région, sur l'enseignement supérieur, ce qui est essentiel pour notre avenir? Moi, j'appelle ça l'engagement de démétropolisation. J'ai choisi le mot volontairement, parce qu'il est marquant, il est laid, il est lourd, il est cassant. Mais c'est ça. Nous payons la même TVA sur notre paquet de café ou sur notre baguette de pain qu'à Montpellier, qu'à Marseille, qu'à Toulouse, qu'à Lille. Donc, cette espèce de croisement des forces et des énergies doit faire que les implantations nouvelles, les synergies, ne sont pas réservées aux métropoles. Voilà ce que ça veut dire.
Et on doit se servir de ce dynamisme. J'ai envie de donner un autre exemple, celui du numérique. On est en zone rurale et il faut que ça aussi, au niveau de l'image, ça change. On est hyper innovant en termes d'usage du numérique. Et on est en train, et d'ailleurs le sénateur maire nous soutient dans ce projet, de mettre en place une école numérique en Lozère et tout particulièrement sur Mende. Qui on a été voir pour mettre en place cette école et quelle ambition on a? On a une ambition régionale d'accueillir des développeurs du web au niveau régional. Et on a été voir la French Tech Montpellier-Rennes, qui est effectivement très urbaine dans son application et dans même sa réflexion qui a été menée au niveau national. Ben, il n'empêche qu'on est en train de réussir, que les futurs développements web de nos start-up de la French Tech, eh ben, ils se forment en ruralité, ils se forment dans notre hyper-ruralité grâce à des écoles où, pendant 6 mois, on va avoir des jeunes qui vont venir se former, qui vont venir se mettre au vert et qui, ensuite, seront performants, compétents pour pouvoir venir travailler sur nos territoires, mais aussi effectivement avec les entreprises, les start-up qui sont sur les territoires urbains. Je pense au réseau Synerre Sud qui était un des premiers partenaires de notre école et qui va nous suivre et qui embauchera et qui sera un vrai levier pour notre école et pour lequel nous, on sera pas, on fait pas l'aumône, on est là pour leur amener des compétences. Les compétences numériques de demain sur le Languedoc-Roussillon et demain la grande école se formeront dans l'hyper-ruralité.
Alors, pour revenir sur la contractualisation, il y a une mesure qui reprend les mesures de Manuel Valls, c'est la mesure 44. En tant que nouvelle contractualisation ville-campagne, Manuel Valls propose expérimenter les premiers contrats de réciprocité ville-campagne entre des communes et des intercommunalités volontaires.
Oui, en fait, là, il vise justement ces grandes métropoles, parce que jusqu'à maintenant, sans loi et sans mesure gouvernementale, prenons un département X de l'hyper-ruralité dans une autre région, et prenons un président de région qui ne soit pas le meilleur du monde, ou une présidente de région qui ne soit pas la meilleure du monde, elle va s'occuper de ses métropoles, elle ne va pas s'occuper de contractualiser dans tous les domaines avec l'hyper-ruralité. Donc ça, c'est fini, ce qu'on dit. On n'est pas des mendiants. Nous créons une partie de la richesse des métropoles, des agglomérations, des métropoles régionales. Nous en sommes l'interland indispensable et nous voulons travailler, pactiser avec eux. On l'a fait avec Georges Frêche à l'époque. Vous savez, il y avait le CPER. CPER, c'était un établissement d'enseignement supérieur du ministère de l'Agriculture. Il y en avait 4 en France. 2 devaient être supprimés. Celui-là, il était mort, il était supprimé. Ben moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'y connaissais rien. Je suis allé voir Max Levita, qui était le spécialiste de l'enseignement. Après, Monsieur Landé, de Supagro, qui était un homme très, très intelligent. Et on a fait Supagro, Florac. Et puis aujourd'hui, ça marche. Mais moi, ça ne me suffit pas. En matière d'enseignement supérieur, on a demain, comme le disait Monsieur Dumortier, en matière de numérique, on doit être leader, par exemple, sur une école supérieure de la santé en Languedoc-Roussillon, dans certains domaines où nous sommes effectivement les leaders sur le savoir-faire. Donc, on doit jouer gagnant-gagnant avec les métropoles. Ce doit être une obligation par les métropoles, parce que les métropoles ne doivent pas juste venir pomper la substantifique moelle de nos territoires quand ils en ont besoin. Les métropoles doivent jouer le jeu avec les interlandes que nous sommes. Et je suis parfaitement d'accord avec l'ensemble des propos de M. Dumortier. Il nous manque un peu d'intelligence, un peu d'aide de l'État, et nous devons y arriver. Pour peu que, par exemple, pour le numérique, nous ne soyons pas, une fois de plus, les derniers servis de la classe France. Parce que ça, ce ne serait pas acceptable. Et ça, il faut le leur dire crûment. Il faut leur dire, nous ne voulons pas la fibre 25 ans après tout le monde. Hein ? Voilà.
Complètement. Autant sur les usages, si nos entreprises demain seront en mesure d'utiliser les usages numériques pour se développer, pour être vraiment moteur, il nous faut un minimum d'infrastructures et effectivement il faut se bagarrer. Alors c'est vrai que les péréquations au niveau de nos grands organismes qui mettent en place le, que ce soit la 3G, la 4G ou la fibre, eh ben on n'est pas très intéressant parce que on n'est pas beaucoup à se connecter au niveau de la prise. Mais donc il nous faut là aussi effectivement de l'intelligence, des aides spécifiques à nos territoires pour que effectivement on ait le même service. Sachant que moi je suis convaincu que 1 euro investi sur nos territoires va faire un effet levier beaucoup plus important que sur n'importe quel territoire. C'est ça. Effectivement, on est peut-être moins intéressant du fait du nombre de populations qu'on représente. Mais par contre, en termes d'effet levier, on est beaucoup plus efficace. Et 1 euro investi dans l'hyper-ruralité, c'est 10 euros retrouvés, alors que c'est, à mon avis, et j'en suis convaincu, sur d'autres territoires, souvent 1 euro investi, c'est parfois 1 euro perdu, alors que chez nous, ben, on saura quoi en faire. Et il y aura vraiment cet effet levier. Il faut pouvoir nous le donner, un minimum.
Vous parliez de Supagro Florac, c'est intéressant dans votre rapport, vous appelez justement à ce qu'il y ait des unités, par exemple du CNRS qui viennent, des écoles nationales, des écoles d'ingénieurs. C'est vrai, pourquoi on n'aurait pas le droit, nous, sur nos territoires hyper ruraux, par rapport aux autres métropoles? Et ça, c'est un manquement dans les mesures de Valls, il n'y a rien qui reprend
voilà,
réellement
que
ça.
Là, je vais à l'essentiel, à l'indispensable. Je vais Au parfait, n'y voyez pas de connotation religieuse. Je suis d'origine cathare, mais non, pour autant, je ne suis pas cathare. Et quand je dis, c'est l'obligation de traiter de l'hyper-ruralité dans toutes les lois, un peu comme aujourd'hui, à la suite du Grenelle de l'environnement, on traite de l'environnement. Alors, quand on va faire une loi en matière d'infrastructure, on va se dire quelle partie des infrastructures ferroviaires sont affectées à l'hyper-ruralité, quelle partie des infrastructures routières. Mais quand ça va être une loi sur l'enseignement supérieur, quelle partie de création d'établissements nouveaux de l'enseignement supérieur est réservée à l'hyper-ruralité? Et c'est là que je prends l'exemple du CNRS qui crée des unités nouvelles sur le territoire. Nous, nous avons les capacités pour accueillir ces chercheurs et leurs familles formidablement bien. Nous avons les établissements d'éducation, nous avons les loisirs, nous avons la proximité des métropoles. Nous n'en manquons pas de métropoles. Lyon à nos portes, Montpellier, Clermont-Ferrand. Et donc, on est au fond du sujet. Il faut traiter de l'hyper-ruralité dans toutes les lois pour ne pas être oublié. Et la règle de démétropolisation, c'est ça. Pourquoi toutes les écoles d'ingénieurs nouvelles devrait être créé à Marseille, à Lille, à Lyon ou à Toulouse? C'est contraire au bon sens, c'est contraire à l'équité républicaine et à l'aménagement du territoire minimum et minimal que M. Dumortier évoquait tout à l'heure à propos de la haute technologie. Avant, on disait solidarité, il ne faut plus qu'on dise solidarité, il faut dire c'est l'aménagement du territoire. Parce que quand un touriste va arriver, qui va descendre de sa belle voiture avec ses deux enfants à l'arrière, la première chose qu'ils vont faire, c'est regarder s'ils peuvent appeler leurs copains ou leurs copines, sortir leur tablette qu'ils ont déjà utilisée dans la voiture, voir si ça passe. Si ça passe pas, papa, maman, on va pas y rester une semaine là, et du moins il ne faut pas y revenir l'an prochain. Or derrière, il y a du chiffre d'affaires et de l'emploi. C'est pas du romantisme. Donc voilà la vérité dont on a besoin dans l'hyper-ruralité. On a besoin que nous soyons traités par toutes les lois, parce que nous sommes encore faibles pour le moment de la République, et pour autant nous sommes peut-être la partie du plus grand avenir de la République, comme l'a dit M. Dumortier.
Trois mesures qui touchent l'accès au numérique et la téléphonie mobile dans ces mesures de Manuel Valls. La mesure 20, accélérer le raccordement au très haut débit des services publics et des entreprises identifiées comme prioritaires par les collectivités. La mesure 21, résorber les zones blanches. Et la mesure 24, stimuler le financement participatif pour la médiation numérique. On va se dépêcher, il reste très peu de temps. J'aimerais aborder, avant de finir, l'habitat aussi, qui est important dans le rapport et qui est repris dans les mesures de Manuel Valls. Stimuler le financement participatif pour la médiation numérique, cette mesure vous touche à la Maison de l'Emploi?
Absolument, et vous auriez pu rajouter la mesure 16 qui est sur le télétravail. On a longtemps travaillé sur la question des installations, et on vient d'en parler, du numérique. On a besoin de tuyaux, on a besoin d'avoir de la 3G, de la 4G sur nos territoires. Mais on a aussi besoin de ces usages. On a besoin de les promouvoir, et on sera d'autant plus efficace et face demain aux opérateurs qui vont venir nous installer, qu'on sera exemplaire sur la manière dont on utilise ces usages, les outils du numérique. Et il faut absolument, et c'est là où on est en plus en avance, je le vois dans tous les différents colloques auxquels j'ai le plaisir de participer, la Lozère, sur les usages du numérique, on est en avance. Il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir montrer comment effectivement c'est essentiel sur nos territoires. Certes, il faut un minimum de tuyaux pour le faire, mais avec les tuyaux, nous, on sait faire des choses. Et c'est à la différence d'autres territoires où ils ont finalement la fibre, ils n'en font rien, alors que nous, avec du haut débit, on est déjà très performants, on invente des modèles qui sont très intéressants. Il faut pouvoir nous aider, effectivement, en nous donnant le jus qui va bien avec.
Bon, allez, on finit rapidement. Alain Bertrand.
Ouais, je crois qu'avec mon rapport, d'autres avant, tout à l'heure on parlait des EDRR. Les EDRR, si elles avaient dû amener quelque chose, on le saurait. Elles ont amené des compléments, des associations, des parties d'activité. Aujourd'hui, vous parlez à un entrepreneur, il ne sait plus ce que la EDRR lui rapporte ou pas. Il n'y a aucune visibilité. Il faut donc plus de volonté. Mon rapport avec d'autres, il a servi à donner un signal à ceux qui nous gouvernent. Et ce signal est relayé d'ailleurs par le vote des citoyens. Il y a eu des votes très larges en faveur de partis qui ne sont pas, à mon sens, les meilleurs partis républicains dans des zones hyper-rurales, parce qu'il y a eu ce sentiment d'abandon. Dans les derniers déplacements de Manuel Valls, comme ceux du président de la République, si vous avez fait attention, vous avez entendu parler de ruralité et vous avez entendu parler de ce sentiment d'abandon. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, mon objectif est atteint auprès du Premier ministre, Manuel Valls. Il connaît la problématique, il sait qu'il y a quelques guerriers qui ne lâcheront pas. Il faudrait que nous soyons plus nombreux. Avec aussi des gens de la société civile, comme M. Dumortier, qui amènent leur expertise, leurs idées. Mais je crois qu'une partie du travail est faite. Maintenant, si nous retrouvons de la croissance, de l'emploi, ce sera plus facile parce que l'avenir nous demandera aussi des moyens dans le cadre de l'aménagement du territoire. Mais le Premier ministre est sensible à la problématique. Ces 52 mesures sont une réponse d'étape provisoire. Je vous dis, j'en appelle à une loi d'avenir sur la ruralité, qui comprendra donc l'hyper-ruralité, qui permettrait à chacun des citoyens de la ruralité et de l'hyper-ruralité de se sentir bien, d'envisager l'avenir avec sérénité, de pouvoir parler de création, de développement, de chiffre d'affaires, d'emploi, de vie associative, culturelle, sportive, sociale, avec confiance, en regardant loin devant. Ça serait une étape essentielle et j'espère que nous nous regrouperons à Lozère pour l'obtenir.
Voilà, et on va espérer que cette loi d'avenir arrive avant 10 ans. Ça serait pas mal pour nous. Frédéric Dumortier ?
Oui, une des premières mesures, dans les premières mesures, il y a, la création des maisons de services au public. Alors même si on n'est pas complètement d'accord avec monsieur le sénateur maire, je voudrais dire que ces maisons-là peuvent apporter quelque chose à condition... Et là, on est bien d'accord qu'elles ne viennent pas contre le service public. C'est indispensable de garder notre service public et notamment à l'échelle départementale. On le sait, on a un pôle emploi à l'échelle départementale, on a une CCSS à l'échelle départementale. Si tant est qu'on a besoin d'aller plus loin et d'offrir ce service en proximité, d'apporter cette ingénierie à un moment donné aussi au plus près des usagers, au plus près des citoyens, cette fameuse médiation numérique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de services publics qui passent par le numérique et les administrations ont l'impression qu'en ayant mis un joli portail sur Internet, le service est efficient. Ce n'est pas vrai. Il faut accompagner les gens, il faut être en proximité avec eux et leur apporter ce service. Il faut se battre pour un service public, départemental. Il faut en même temps aller encore plus loin sur nos territoires parce que pour certains services publics, on est encore à une heure de route. Il faut amener ce qu'on a réussi à faire avec ces maisons de services au public de la proximité. Il faut pas qu'elles viennent remplacer nos services publics à aucun moment. C'est quelque chose qui vient en plus et qui amène de la proximité et de la cohérence sur nos territoires.
Nous avons dialogué avant dans le studio avec M. Dumortier. Donc je lui... on est trop peu nombreux pour ne pas regrouper nos forces. Je suis d'accord avec lui, donc, sur le fait d'amener la proximité. Simplement, j'y mets comme condition, parce que c'est ma mesure numéro 2, l'engagement de non-décroissance du signal républicain, c'est-à-dire qu'on doit conforter le service public en s'appuyant sur des missions délocalisées de l'État. Très rapidement pour vos auditeurs, la DDT de la Lozère pourrait être l'expert pour toute la France des zones humides, de l'aménagement des zones humides. Voilà. Ou la police, ou la gendarmerie de la Lozère pourrait être l'expert en matière de crimes contre les personnes âgées. Ou le tribunal de grande instance de Mende pourrait être l'expert national ou régional en matière de tutelle. Ensuite, on amène cette proximité, et M. Dumortier a raison de ce point de vue-là, et là, on a un bouclage parfait de la présence républicaine auprès des 75 000 ou 78 000 citoyens lozériens. Donc, vous voyez, on s'entend.
Non, mais c'est très important, effectivement. Et on a, comme pour, vous l'avez dit tout à l'heure, pour les grandes écoles, on a cette capacité d'accueillir des nouveaux services, d'avoir cette expertise nationale, ce qui est effectivement aberrant, d'aller mettre des bureaux, de faire du mètre carré à 3000 euros le mètre carré en zone urbaine, alors que chez nous ils seront mieux accueillis, ils auront le cadre de vie qui va avec, et effectivement ça coûtera moins cher parce que le mètre carré...
Quelques truites, quelques bécasses, des cèpes, des girolles, donc nous sommes le pays des merveilles. Inventons le reste.
Allez, on va rester sur ça. Les mesures, bien sûr, ça parlait de la mobilité rurale, les mesures Valls aussi, de la revitalisation des centres-bourgs qui ont été repris sur votre rapport, des aides au commerce, etc. On n'a pas le temps, on pourra en parler des heures et des heures.
On reviendra.
Voilà, on reviendra. Merci à vous deux d'être venus dans ce mag spécial. À 14h, une émission ira en direct de la médiathèque d'Uzès, il me semble. Avec nos amis de Radio Fuse pour une émission, un plateau en direct qui va parler de la presse. Et en attendant, cette émission sera rediffusée jeudi prochain à 18h10. Merci à vous deux et bonne journée à tous.
Merci à Carduit.
Merci beaucoup. Merci. À très vite.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48 FM.
Du mardi 21 au dimanche 26 avril. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marie.
Alors mardi 21 avril à 16h30 au Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d'Apcher, du cinéma, avec la projection Vincent Van Gogh, une nouvelle façon de voir. Dans le cadre des expositions au cinéma, ce documentaire s'invite au musée Van Gogh d'Amsterdam pour découvrir les pièces maîtresses de son œuvre. C'est une projection tout public pour un tarif de 6,80€ et 5,80€.
Jeudi 23 avril à 20h30 à Chanac. Serge Tesoguei, Kaspar Klaus et Kakushin Nichiara. Donc c'est une sortie de résidence organisée par Détour du Monde. Donc c'est de la musique du monde, France-Japon, dans un répertoire qui devrait être de l'émotion à fleur de peau, à portée de main ou à portée de doigts et de la voix, du corps et de l'esprit. Couplé à un violoncelle décloisonné, une guitare décomposée, le chant est décondensé, déconcerté. La création finale de ce spectacle sera visible au festival Détour du Monde en juillet 2015. C'est organisé par Détour du Monde.
Vendredi 24 avril à 20h30 au Ruelle d'Esclanède du théâtre avec le spectacle L'Annonce. Un plateau quasiment nu. 5 femmes répondent à une annonce concernant un emploi dont la définition n'est pas très claire. Le libellé de l'annonce comporte des variantes. Et l'action se déroule pleine de rebondissements. Ces femmes se trouvent progressivement plongées dans un huis clos assez étrange. Les épreuves auxquelles elles sont confrontées défilent, plus décalées, plus insolites les unes que les autres, aussi déroutantes que burlesques. Arrive la sélection finale, qui est loin de correspondre à l'attente des postulantes. C'est un spectacle tout public pour un tarif de 7€, de 4€ pour les enfants et un tarif de 4€ pour les groupes. C'est proposé par le Théâtre du Hangar et le spectacle sera également rejoué le samedi 25 avril à 20h30 à la salle Colucci du Monastier.
Donc Marie, nous aurons aussi ce mois-ci, donc le 25 avril à 20h30 à la salle communale de Saint-Pierre-de-Tripier, le bal du mois à Saint-Pierre-de-Tripier, donc, avec des ateliers de danse, de la musique irlandaise et un groupe Balstradar. C'est à 6€ et c'est organisé par Petrus Anima.
Samedi 25, toujours à 20h30, mais à Saint-Chély-d'Apcher, au Ciné-Théâtre du cinéma avec Compostelle, le chemin de la vie. La projection sera suivie d'un débat avec le réalisateur accompagné du membre de l'association sur le pas de Compostelle. Le réalisateur a suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs des pèlerins. C'est une projection tout public pour un tarif de 6,80€ et de 5,80€ proposée par le Ciné-Théâtre de Saint-Gilles-d'Apcher.
Un concert de trompe et d'orgue à la cathédrale de Mende ce samedi 25 avril toujours à 20h30. Donc c'est le concert de l'école de trompe de Heutigue, comprenant environ 50 sonneurs, accompagnés des orgues de la cathédrale. Et ce sera pour une entrée à 10€.
Samedi 25 à 21h au Théâtre de Mende, le spectacle Mado prend racine, un spectacle de Noël Pernat, pour un tarif de 40€ proposé par le comité des fêtes de la ville de Mende. Rencontre avec Alice Bergeon de la Jeunette Verte à Flora, qui nous parle du spectacle de Vincent de Dienne.
Alors, le spectacle de Vincent de Dienne, que nous accueillerons le samedi 25 avril, s'intitule « S'il se passe quelque chose ». C'est le premier solo de ce jeune comédien que vous avez peut-être entendu sur France Inter. Il passe le mercredi à 6h55 dans le billet de Vincent de Dienne. Et il passe également sur Canal+, dans le supplément, une émission qui s'appelle « La bio interdite », tous les dimanches à 12h55. Donc son spectacle est assez différent de ce qu'il peut faire sur France Inter ou Canal+, puisque là il s'agit d'un autoportrait, une sorte de mix entre stand-up, one-man show et théâtre. C'est un jeune comédien qui a fait l'école de théâtre de la Comédie de Saint-Étienne. Il parle donc de sa vie en partant de son adoption jusqu'à son métier d'aujourd'hui, en alternant avec des savoureux sketchs dans lesquels il incarne différents personnages, notamment Marie-Antoinette. Enfin, c'est vraiment une forme très originale. On sent qu'il vient du théâtre, il a joué des pièces classiques, donc c'est un peu assez différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui, des jeunes artistes qui font uniquement du stand-up. Ils ne cherchent pas à tout prix à enchaîner des blagues, mais ils cherchent à faire un spectacle, comme il dit, sur un thème qui n'a jamais été abordé au théâtre, c'est-à-dire sa vie à lui. Et donc voilà, c'est un personnage très sympathique et vraiment un artiste qui monte, qui a été notamment repéré par Laurent Ruquier, qui le produit, donc au même titre que Michael Gregorio et Gaspard Proust. Donc je vous invite vraiment à venir découvrir cet artiste à la Genève d'Arc le 25 avril. Le tarif est de 15 euros en tarif plein, 10 euros en tarif réduit et 5 euros pour les enfants jusqu'à 14 ans.
Dimanche 26 avril à 20h30 au Trianon Cinéma de Marvejols du cinéma, avec la projection du film Le Chien Jaune de Mongolie. Nansal, une gamine de 6 ans, est l'aînée d'une famille de nomades du nord de la Mongolie. Un jour, elle ramène un chien abandonné, mais son père pense qu'il va leur porter malheur et veut qu'elle s'en débarrasse. Nansal tente de le cacher, mais le jour où la famille déménage, elle doit abandonner son chien. Cette projection est proposée par le Ciné-Club de Marvejols.
Et enfin, un événement du dimanche 26 avril au 17 mai. Les Romanes Cévenoles, donc dans les lieux sacrés Cévenoles autour de Florac, dans les chapelles, les églises et les temples, c'est la deuxième saison des Romanes Cévenoles. Des rendez-vous exceptionnels à ne pas manquer avec des conférences, des expos, des concerts, des lectures et bien d'autres choses. Et c'est organisé par Eloquentia.
Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations et l'actualité culturelle de la Lozère sur culture.lozère.fr.
Bonne semaine.
Semaine à tous.
Quarante-huit FM.